Eh bien, évidemment, on est très heureux de vous accueillir ici ce matin pour lancer cette matinée de rentrée. On est très heureux aussi de voir ces lieux reprendre vie, de retrouver un peu d'animation après des mois en Zoom, parce que le CIF, vraiment, c'est d'abord des personnes qui ne se seraient peut-être pas retrouvées, sinon, qui ne se seraient peut-être jamais connues, et qui vont se retrouver pendant un an ou deux ans avec un objectif commun, qui est celui de réfléchir à la foi chrétienne pour mieux la comprendre et pour l'approfondir. Alors le but de la matinée, c'est déjà de se retrouver tous ensemble, parce que vous verrez qu'il y a peu d'occasions dans l'année. On est répartis dans des cours différents, à 14h ou à 20h. On se retrouve dans les groupes en petits comités. Et il y a seulement les samedis où vous retrouverez Roselyne. On va se présenter après. Où on aura l'occasion d'être tous mélangés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire connaissance, vous présenter l'équipe du CIF, redonner le cadre de ce projet dans lequel vous vous lancez. Bernard Clazen, qui est le directeur du CIF, et Roselyne Dupont-Roch, qui est en charge de toutes les activités bibliques ici, donneront une mini-conférence pour éclairer deux points assez importants. D'abord, pour éclairer cette notion d'intelligence de la foi, qui parfois fait un peu peur, et puis qu'on pourrait amalgamer avec intello ou théorique. Et puis, Roselyne, pour expliciter cette place de la Bible dans la théologie et dans un parcours de formation en théologie. Ensuite, on aura une petite pause, quelques aspects de vie pratique avec Hélène, et puis on vous présentera le fonctionnement des groupes et vous pourrez avoir un premier contact avec votre accompagnateur. On pourra aussi procéder, si certains d'entre vous sont venus pour voir, pour se renseigner, à des dernières inscriptions, si vous le souhaitez. Alors, un petit mot de présentation. Donc, je suis laïque, mariée, mère de famille. C'est pas anodin. Le CIF fonctionne depuis l'origine avec à sa tête un binôme qui est formé d'un président laïque et d'un directeur qui est le plus souvent un prêtre. Je suis enseignante en théologie à l'Institut catholique de Paris, mais le plus clair de mon temps est dédié au CIF. Je suis moi-même une ex du CIF, promo CIF 22, ça remonte un petit peu. Je suis revenue au CIF il y a quelques années pour accompagner un groupe. De fil en aiguille, j'ai été amenée à m'y investir plus pleinement. Je suis présidente depuis 2 ans. Et par ailleurs, j'assure le cours d'anthropologie au 3e trimestre. Si je suis ici, c'est que je suis intimement convaincue que le CIF offre un service très précieux et en fait assez unique. Beaucoup de propositions aujourd'hui sont faites pour ceux qui souhaitent se former dans la foi, au moins à Paris. Mais il faut avoir conscience que c'est une chance et que pour des laïcs, la possibilité d'entrer dans une démarche d'intelligence de la foi est en fait assez récente. Ça remonte aux années 60. Jusqu'au Concile Vatican II, la théologie, c'est l'apanage des clercs. Et les laïcs, ils en restent au catéchisme de leur enfance. Peu même lisent la Bible en dehors des lectures entendues à la messe. Et c'est donc l'Institut catholique de Paris qui, le premier, va ouvrir une formation qui leur est dédiée, une formation qui est sanctionnée par un diplôme qui s'appelle le baccalauréat canonique, qui existe toujours aujourd'hui. Mais c'est un cursus qui est long, aujourd'hui il se fait en 8 ans, qui est exigeant et donc qui ne convient pas à tout le monde. Et c'est donc comme ça qu'est né le CIF, dans la foulée, en 1971, pour proposer un parcours qui soit plus conciliable avec des contraintes professionnelles et familiales. Alors, à l'époque, quand ça s'est ouvert, il y a eu des demandes très fortes. Mais aujourd'hui, il faut vraiment savoir que la question de la formation est toujours aussi fondamentale et que le pape François ne cesse d'inviter les chrétiens à se former. Évidemment, pour que chacun puisse progresser dans sa relation au Christ, puisse nourrir sa vie de foi, mais aussi pour le bien de l'Église, qui a besoin de chrétiens solides, et puis aussi tout simplement pour que la parole de l'Évangile puisse continuer à être annoncée d'une manière qui soit la plus juste possible. Alors la particularité du CIF, c'est de proposer une formation générale qui balaye la foi dans toutes ses dimensions majeures et surtout de compléter l'apport magistral, ce sont les cours, par des groupes de travail. L'enjeu ici, ce n'est pas d'ingurgiter un savoir. C'est de découvrir la foi comme une lumière pour nos vies. Je reprends quelques mots du pape François avec cette citation de Lumen Fidei. Vous voyez, mieux connaître ce que nous aimons. Explorer toujours davantage l'horizon que la foi éclaire. Accueillir et rechercher une intelligence plus profonde de la parole que Dieu nous adresse. Et c'est ça que le CIF propose, et de le faire en étant épaulé, entouré. En fait, il s'agit d'avancer vers une foi qui est plus adulte, plus mûre. Vous ne repartirez pas d'ici avec plus de certitude. On ne met pas la main sur le mystère de Dieu, on cherche. Mais vous repartirez avec des repères et en ayant vu comment réfléchir de manière rigoureuse. D'où les 2 ans de parcours. C'est comme un apprentissage, en fait. Alors les cours, vous verrez, pour certains, seront une petite marche à monter. Il faut être patient. Si ça dure 2 ans, ce n'est pas pour rien. Il faut accepter que les choses se mettent en place petit à petit. Vous verrez que les choses s'éclairent. Surtout que le premier cours n'est pas facile. C'est presque le plus difficile des 2 ans. Vous verrez aussi que de la place est toujours laissée aux questions. Et il faut se sentir absolument libre de poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de censure à avoir. Vraiment, vous devez vous sentir très, très libre. Et puis, vous aurez aussi les groupes qui vous permettront de continuer à entrer dans une discussion et de partir de vos questions aussi. Alors, comment, un petit mot sur l'organisation du CIF. Le CIF est une association indépendante. On a un conseil d'administration dans lequel sont représentés les 8 diocèses d'Île-de-France. Donc, on n'est pas un électron libre. Et il faut savoir qu'on est en contact très régulier avec les évêques et avec les services de formation des diocèses. Mais on est indépendant. On est une association à but non lucratif. Ça veut dire que ce projet est porté par des bénévoles. Donc, vous voyez ici le bureau, il manque 2 personnes, mais un bureau de 8 personnes qui se réunit tous les mois. Les membres de ce bureau sont bénévoles. Les accompagnateurs de groupe sont également bénévoles. Le CIF a une salariée permanente, qui est Hélène, avec laquelle vous avez déjà, qui était à l'entrée, avec laquelle vous avez tous été déjà en contact. Donc, c'est notre assistante. Son bureau est au premier étage. Et en fait, c'est vraiment elle qui assure la bonne organisation au jour le jour de toutes nos activités. Avec vraiment une ardeur, une gentillesse et une efficacité qui est incroyable. Et tout ça est comme ça aujourd'hui grâce à elle et à ses enfants qu'elle a mobilisés. Alors, ensuite, il y a les enseignants. Donc, il y a 7 enseignants. 6 trimestres, mais 7 enseignants, parce qu'il y a parfois un trimestre à 2 voix. Vous verrez qu'ils sont prêtres, laïcs, religieux. Ils enseignent tous aussi quasiment à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Les accompagnateurs, donc, que vous verrez pour une part tout à l'heure. Et puis, les anciens. Il y a plus de 3000 étudiants qui sont déjà passés par le CIF. Et vraiment nombreux sont ceux qui lui gardent un véritable attachement. On les revoit parce qu'ils reviennent parfois pour suivre un cours quand l'enseignant a changé, parfois pour suivre une conférence. On organise aussi des modules bibliques après le parcours du CIF, dans lesquels ils sont 100. Beaucoup d'entre eux aident aussi à vivre le CIF par des dons financiers. Et vous êtes peut-être, enfin pour une part d'entre vous, arrivé ici par l'un d'entre eux qui vous a parlé du CIF. Le CIF, on le connaît beaucoup par les anciens et beaucoup par les flyers que vous avez trouvés dans les paroisses. Alors, passons à vous maintenant. Donc, vous formez la 51e promotion du CIF. Vous verrez toujours dans les mails, vous êtes les CIF 51. Alors, quelques chiffres. À jeudi, nous avions 69 inscrits. 51 sont inscrits en parcours, c'est-à-dire pour toute l'année. 18 sont inscrits pour le premier trimestre. Et évidemment, secrètement, on souhaite qu'ils continuent. On verra. Vous êtes 35 à être inscrits au cours de 14 heures, donc qui se passe en présentiel, ici, dans la salle. En bas, dans la salle du sous-sol, en bas. La capacité de la salle est de 40. Il y a toujours 1 ou 2 personnes qui gravitent en plus, 1 ou 2 accompagnateurs qui viennent. Donc ça veut dire qu'on arrive au taquet, en fait. Ce qui veut dire que les gens qui se sont inscrits en Zoom, c'est important qu'ils respectent leur horaire de Zoom et qu'ils ne viennent pas ici, même exceptionnellement, ou alors vraiment en nous prévenant, et on verra si c'est possible. Vous êtes 34 à 20 heures. Donc 20 heures, c'est le cours en Zoom. C'est la première année qu'on a institutionnalisé ça, avec les leçons apprises du confinement. Et on l'a fait vraiment, pas pour faire du chiffre, on ne cherche pas du tout à faire du chiffre, vraiment parce qu'on a constaté que c'était possible de créer un vrai esprit de groupe et de classe et d'interactivité avec l'enseignant, y compris en Zoom. Vous êtes 42 femmes, 27 hommes, fourchette d'âge large, de 30 à 89 ans. Je ne sais pas si la dame de 89 ans est là. Non, bon. En tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et pour continuer à se lancer. La dizaine la mieux représentée est celle des 60 ans. Et c'est vrai que pour des plus jeunes, ce n'est pas facile de s'engager toutes les semaines quand on a des enfants, un travail un peu prenant. Mais je veux dire à ceux qui sont un peu plus jeunes à quel point on est content de les avoir aussi et on est conscient de ce que ça représente pour eux. En tout cas, ce mélange des générations est vraiment, vous allez le voir, intéressant parce qu'on ne se pose pas les mêmes choses et on ne voit pas les choses du même point de vue. Alors, par provenance géographique, intéressant aussi, vous êtes 20 de Paris, dont une personne du quartier, mais sinon tous les autres viennent de tous les arrondissements de Paris. Vous êtes 26 du 92, Garches, Clamart, Puteaux, Antony, Boulogne, Bagneux, Meudon, Saint-Cloud et tout un groupe de villes d'Avray. Vous êtes 13 des autres départements, 13 des autres départements d'Île-de-France, 6 du 91, l'Essonne, où ils ont formé un groupe sur place, 4 du 78, le diocèse de Versailles, Maisons-Laffitte, Sainte-Mesme, Houille, 1 du 93 au Lilas, 1 du 94 à La Haye-les-Roses, 1 du 95 à Argenteuil. Et puis, ce qui est nouveau cette année avec le passage en Zoom du cours du soir, c'est que nous avons une dizaine de personnes qui viennent de province, pour lesquelles on est arrivé à peu près à monter un groupe par Zoom. Donc sont représentées les Pyrénées-Atlantiques, Saint-Brieuc en Bretagne, la Normandie, Tours, Divonne-les-Bains en Auvergne-Rhône-Alpes, deux personnes du Nord, à Vatigny et à Templemar, et deux religieuses de Moselle, qui sont des religieuses cloîtrées, et qui vont pouvoir suivre, et qui étaient très heureuses, parce que comme elles nous disent, on n'a plus de prédicateurs. Donc vous voyez une très grande diversité à tout point de vue, et cette diversité, on la retrouve aussi du point de vue religieux. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont baigné dans la foi chrétienne depuis l'enfance. D'autres sont de jeunes baptisés. D'autres recommencent dans la foi après l'avoir délaissée pendant tout un temps. Certains sont très engagés dans l'Église. D'autres ont des problèmes avec l'Église et d'autres n'y mettent plus les pieds. Certains ont déjà suivi des formations ou lisent beaucoup. D'autres, pas du tout. Et même, peut-être, n'ont jamais ouvert la Bible de leur vie. Nous rejoignent aussi quatre religieuses, les deux dont je vous ai parlé, et deux religieuses qui sont là, sœur Mitio, qui est une sœur auxiliatrice, originaire du Japon, que vous allez retrouver dans les groupes, et puis sœur Philomène, et puis frère Jean-Désiré, je ne sais pas s'il est là, très bien, je ne vous avais pas vu. Frère Jean-Désiré, qui est frère missionnaire de la Charité et qui est originaire de Madagascar. Donc vous voyez que c'est vraiment ça que je veux vous dire, que tout le monde se sente très à l'aise. Il n'y a pas de critères à remplir, il n'y a pas de comptes à rendre, on n'a pas de niveau à atteindre. Chacun suit son chemin, ses chemins ne se ressemblent pas et vraiment c'est tant mieux. Et je veux vous dire à travers les rencontres qu'on a eues avec vous individuellement à quel point souvent votre parcours et votre décision forcent notre admiration, vraiment. Vous allez voir que toutes ces singularités sont vraiment une richesse et que tout en portant un même intérêt à la foi et un même intérêt au Christ, on a sur les choses de la foi des points de vue qui sont parfois très différents et qui sont liés à notre histoire personnelle, à notre trajectoire personnelle. Toutes ces différences, elles nous poussent à réfléchir plus loin. Vous allez vraiment le voir dans les groupes. Mais aussi, je veux vous dire, la beauté de ça, c'est que le CIF, c'est une occasion de faire une vraie expérience d'église, différente de celle de ce qu'on fait dans une paroisse ou dans un mouvement d'église. Et ça, de pouvoir faire cette expérience d'église, c'est vraiment une chance, à mon avis. Alors, je vous dis un mot du programme. Un trimestre, vous avez compris, c'est 10 cours, souvent un samedi, en tout cas pour les deux premiers trimestres, et 3 réunions de groupe. Et chaque année se découpe en 3 trimestres, avec à chaque fois un enseignant différent. Alors, au premier trimestre, et là, il y a une petite différence par rapport au flyer, c'est la question de Dieu, en fait. Comment Dieu se manifeste à l'homme. Une autre manière de dire, c'est la question de la révélation. Donc, révélation, un mot un peu technique, mais on va parler d'un Dieu, le Dieu des chrétiens, qui est le Dieu tout-puissant, et en même temps, qui est un Dieu qui cherche l'homme, et qui vient à sa rencontre, et qui se fait tout proche, et qui veut le connaître, avec le projet de nouer avec lui une relation d'alliance et de communion. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Comment Dieu se révèle-t-il? Comment est-ce qu'on sait ça? Et qu'est-ce qu'on en sait? Toutes ces questions, et bien d'autres, seront posées. C'est le seul trimestre où il y a 2 enseignants. À 14h, c'est le père David Sandres, qui enseigne à la Cato et au Bernardin. Et à 20h, il a déjà donné ce cours il y a 2 ans, et il revient cette année. Et à 20h, c'est Brigitte Cholvy, qui a été enseignante pendant des années et des années à la Cato, qui était responsable du doctorat à la Cato, qui vient de prendre sa retraite en Haute-Loire et qui donnera le cours de chez elle en Haute-Loire. Vraiment 2 intervenants excellents. Le cours de David n'est pas facile. Pour Brigitte, c'est la première fois qu'elle fait. Il faut un petit peu s'accrocher, il faut poser les questions et surtout, il faut être patient. Et vraiment, l'expérience d'il y a 2 ans nous a montré que tout s'éclaire au fil du temps. Partie intégrante de ce cours, une journée donc consacrée à la Bible, le samedi, avec Roselyne, qui se présentera tout à l'heure, une journée consacrée à la découverte de l'Ancien Testament. Les journées du samedi sont toujours animées par Roselyne, et ce sont des journées qui sont ouvertes à l'extérieur. Donc vous pouvez toujours proposer à un ami, quelqu'un de votre paroisse, de venir pour un prix de 25€ pour eux. Pour vous, bien sûr, c'est dans le parcours. Donc c'est un moyen de faire connaître le CIF aussi. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils étaient venus à des journées. Deuxième trimestre, un cours sur le Christ, donc avec le père Bernard Clazen. Un jour du temps, celui qui s'est fait connaître au peuple juif comme le Dieu unique, le Dieu qui sauve, entre dans l'histoire. Et en Jésus, se révèle pleinement aux hommes. Comment penser ce paradoxe de Jésus à la fois vrai Dieu et vrai homme? Est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est vraiment un événement de salut qui nous ouvre les portes de la vie éternelle? Ce cours est donné par Bernard et c'est un cours qui est beaucoup, qui mobilise beaucoup les images, parce que les images sont aussi une manière de faire de la théologie. Et là, deuxième journée, avec Roselyne, le samedi 8 janvier, un samedi, consacrée cette fois au passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Les journées se passent ici, dans cette salle. Enfin, au troisième trimestre, le cours d'anthropologie, vers quelle compréhension chrétienne de l'homme, donc un cours sur l'homme, avec moi. Comment est-ce que le Christ, qui est venu parmi nous, qui a pleinement assumé notre condition humaine, ne nous dirait pas quelque chose de qui est l'homme? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Depuis toujours, l'homme s'interroge sur lui-même. Aujourd'hui, il y a des nouvelles problématiques qui le concernent au premier chef. On verra quel est le regard propre que propose la foi sur toutes ces questions. C'est toutes les grandes questions existentielles, de l'origine, de notre destinée, du mal, etc. En seconde année, à nouveau 3 cours. Un cours sur l'Église avec Anne Righini. Un cours sur les sacrements avec Isaïa Gazzola, qui est moine cistercien de l'abbaye de Lérins, mais qui est domicilié à Paris, et un cours « Comment agir en chrétien dans le monde » qui est en fait un cours sur l'éthique. Voilà, on termine le parcours en se disant ben voilà, comment finalement vivre en chrétien dans le monde aujourd'hui, et vous retrouverez à la fin de ce troisième trimestre Bernard Clazen pour clore le parcours sur probablement quelques encycliques du pape François. Voilà, je vais laisser la parole à Bernard et à Roselyne. Est-ce que ensuite, on fera une petite pause vers 11h. Est-ce que, à ce stade, vous avez déjà des questions? C'est bon? Alors.
Merci. Alors, on va brancher les engins. Et voilà. Donc, je suis Bernard Clazen, je suis prêtre du diocèse de Nanterre. Après avoir été aumônier de jeunes, j'ai été curé pendant longtemps. Maintenant, je ne le suis plus. Je suis vicaire à Boulogne, Billancourt, où il y a deux grosses paroisses. Et j'enseigne beaucoup. Je passe mon temps pratiquement entre l'Institut catholique de Paris, le séminaire et le CIF, dont je suis directeur. Donc, c'est bicéphale, vous avez compris. Hein, c'est directeur et présidente. On marche vraiment tout à fait ensemble avec l'équipe du bureau. À l'Institut catholique, ma spécialité, c'est plutôt la philosophie. Mais j'ai fait de la théologie, bien sûr, je continue à en faire. Et j'essaye de rendre audible, c'est un petit peu ça la vocation du CIF, de rendre audible des choses qui ont réputation d'être difficiles conceptuellement. Et donc, le défaut des philosophes, c'est souvent de compliquer les problèmes. Et moi, j'essaye de faire l'inverse. C'est la raison pour laquelle je pense que je suis ici au CIF. Alors, je voudrais vous dire un mot sur ce qu'est l'intelligence de la foi à laquelle le CIF travaille et vous avec. Ou si vous voulez, comment s'articule, s'harmonise foi et raison. Mais tout de suite, dire que l'intelligence de la foi, ce n'est donc pas une foi d'intello. Mais la foi doit pouvoir animer et être animée par toutes les dimensions de notre existence. Existence sensible, existence fraternelle. Ah oui, moi ça saute pas, donc ça doit être les câbles. Je continue. Et donc, je vais vous exposer. Voilà. Voilà le plan que je vous propose. Mais tout ce que je viens de dire, vous voyez, tous les mots que je viens de dire importent beaucoup. Hein. Je viens de parler, par exemple, je ne comprends pas. Le mien va très bien, mon écran va très bien, il ne saute pas. Ah, c'est le câble, peut-être. Alors ça, vous savez, c'est les mystères de la connexion. J'ai VGA, sinon. Non, c'est... Ah, c'est très casse-pied. Bon, enfin, voilà, vous aurez comme ça, par éclipse, vous voyez, c'est comme dans les stands de tir du GIGN, les images apparaissent par éclipse, et ils ont donc 2 secondes pour réagir. Alors, je vous disais que les mots que je viens d'utiliser importent énormément. Là, il y a une animation mutuelle entre la foi et l'intelligence. De même, il y a dans nos existences une sorte d'interpellation, d'animation, également d'étaiement mutuel entre notre existence sociale, fraternelle, notre existence sensible, spirituelle, notre existence intelligible, ce que nous comprenons de notre vie. Et vous voyez, toutes ces dimensions s'articulent entre elles. Il n'est pas vrai qu'il y en ait une qui ait à dominer les autres. Alors, on n'est plus, si vous voulez, platonicien, où on pensait que c'était l'intelligence qui venait tout éclairer, tout réformer, voire tout annuler. On n'est absolument pas dans ce mode-là. Alors, je vous présente d'abord 2 images. Alors là, c'est vraiment embêtant si elles sautent, mais bon. Ma première image, c'est celle-ci. C'est la première image que vous avez sur le site du CIF. C'est le monastère de Grégoire l'Illuminateur à Artashat, au pied du mont Ararat, en Arménie. Vous savez, c'est la première image quand vous ouvrez le site CIF. Nous pourrions croire que ce que nous allons aborder est immense, inatteignable, comme le sommet du mont Ararat. Pensez et étudiez la foi. Pensez Dieu. Nous avons raison spontanément, c'est hors d'atteinte. Mais nous pouvons y participer en deux sens. D'abord, en nous, il y a les connexions, si j'ose dire, les connexions nécessaires. Comme dit Augustin, nous sommes capax dei. C'est-à-dire qu'en nous, il y a le désir de connaître. Et ça, c'est déjà énorme. La foi, le désir de l'absolu, nous ont déjà fait grandir et ont ébauché en nous une sorte de réponse à cette immensité. Ensuite, les pensées qui montent vers le sommet participent à ce sommet. C'est-à-dire, sans les pentes que nous allons parcourir, pas de sommet. Vous savez bien que dans une randonnée, la patience, l'anticipation, la régularité du pas, la compagnie des autres, les repères posés par d'autres sont nécessaires. Dans les études, c'est pareil. Voilà, vous voyez, l'image de la randonnée en montagne est très parlante. Si vous êtes sur la pente, vous êtes déjà sur la montagne. Le sommet est loin, mais ça y est, vous y êtes. Et vous savez bien, en faisant des randonnées peut-être, que c'est tellement mieux à plusieurs. Vous savez bien, si vous faites de la randonnée, que vous avez besoin de quelques balises, quelques repères, que d'autres avant nous ont posés. C'est ce que nous allons parcourir. La seconde image que je vous propose, c'est celle de l'arc boutant. Vous en voyez ici, c'est l'arc boutant, c'est quoi? C'est cette poutre oblique qui vient consolider le haut du mur en son endroit devenu le plus faible du fait de la voûte. Vous avez compris tout ça? Voilà, vous avez visité des églises gothiques, enfin des églises ogivales. C'est de l'arc gothique. Et dans cet arc gothique, comme nous, on a voulu monter vers Dieu. On a voulu la clarté, la lumière. Monter vers la compréhension, c'est lumineux. Ça, c'est... Et donc, on a raison de promouvoir l'intelligence de la foi. Tout comme on a raison, je le dis par parenthèse, de promouvoir la sensibilité croyante. On a voulu monter vers la lumière et en fait, rien de cette fine structure sophistiquée qui permet de capter la lumière ne tiendrait sans la masse des appuis. C'est ça l'arc-boutant. L'arc-boutant, c'est très pesant. Et cependant, pour monter, pour s'élever, pour la légèreté, il nous faut ces appuis. C'est une image de nos études. C'est une image des rapports réciproques entre la foi et la raison. La foi est une lumière sur la route, mais elle doit être étayée par la raison. En gros, pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée. C'est parfois un peu complexe. On a perdu l'image, mais ça va revenir. C'est parfois un peu complexe, mais notre enseignement consiste à rendre accessible cette complexité. C'est complexe comme l'est le réel, après tout. Notre vie également est complexe. C'est complexe comme le sont nos existences. Et donc, il ne faut pas s'affoler parce que la foi est complexe. Il ne faut pas s'affoler, s'énerver parce que la théologie est compliquée. Vos existences le sont-elles? Simples? Évidemment non, elles sont compliquées. Et dès qu'on commence à y réfléchir, dès qu'on commence à les éclairer, on la vit d'autant mieux, notre existence. Itou Idem pour la foi. La foi a besoin de la raison comme la raison a besoin de la foi. Je vais essayer de faire une nouvelle petite manip. Il va reconnaître, oui. Et voilà, et ben non. C'est casse-pied, ça. Hein. Est-ce qu'on a une télécommande ? Non, il est beaucoup trop lent, le mien. Si on le redémarre, il va mettre un quart d'heure. Il est vieux. J'ai déjà fait. Attendez, je vais faire une minute. Une minute. J'ai une autre idée. Hop. Est-ce que... ça rend quelque chose, ça. Voilà. Génial. Oh, j'ai trouvé la ruse. Mais ça va sauter toujours. Donc, vous voyez la complexité. Hein. Cette image vous montre combien les contributants, les appuis sont complexes. Mais comme je vous le disais, pareil dans notre existence. Hein. Donc, voilà. Nous ne croyons pas uniquement ce que nous comprenons, tout comme nous n'aimons pas chez autrui uniquement ce que nous comprenons de lui. Il y a toute une part de lui qui nous échappe et que nous aimons. Et ça, c'est parfaitement raisonnable, ce que je viens de dire. Ce ne serait pas raisonnable de n'aimer en lui ou en elle que ce que j'arrive à comprendre. Eh bien, c'est pareil pour la foi. Vous m'avez suivi sur mon petit raisonnement. Eh bien, c'est pareil pour la foi. C'est-à-dire, je ne crois pas ce que je comprends. Mais mieux je comprends, mieux je crois. Voilà, donc c'est le rapport entre la foi et la raison que je viens de vous expliquer. J'ai besoin de comprendre, mais la foi déborde la raison. Et ce débordement appelle l'intelligence et l'admiration. Ça, c'est tout le propos de la théologie chrétienne. Deuxièmement, le statut de l'interrogation. Ici, il faut vraiment rassurer beaucoup nos contemporains et même les séminaristes à qui j'enseigne la philosophie. Il faut sans cesse s'interroger sur le statut de la question. Vous vous posez des questions, vous avez parfois des doutes, vous avez envie de comprendre, eh bien tant mieux, le CIF est fait pour vous. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir parce que c'est soi-disant un mystère. Vous avez raison. Le mystère n'est pas un empêchement, il est un appel. Il appelle tout en vous, le mystère. Votre participation active, votre intelligence, vos émotions, vos amitiés, vos expériences mystiques, banales, quotidiennes ou exceptionnelles, tout est habité de mystère, c'est-à-dire d'insaisissabilité. Vous ne pouvez pas en saisir la totalité. Le mystère, appelons-le la présence de Dieu en nos vies, n'exige pas le mutisme. Il n'est pas interdit de s'interroger sur lui. Mais au contraire, il veut venir à la parole. Il faut tenter de l'exprimer. C'est ce que nous allons faire ici avec vous. Vous vous interrogez, vous avez des doutes, c'est plutôt bien. Le contraire serait navrant. Encore faut-il distinguer question et question. Ou si vous voulez, dans le doute, il y a trois catégories. Il y a d'abord le doute sceptique, boudeur. C'est celui qui fait le malin, celui qui a la réponse à tout, celui à qui on ne la fait pas. Souvent, il est très bien équipé de questions prétextes. Oui, mais... je vous le déconseille carrément, sauf dans les salons mondains de la banlieue ouest de Paris. Deuxième type de doute, c'est le doute méthodique, si vous voulez. C'est celui de René Descartes. C'est une méthode pour comprendre. Questionner, interroger, remettre sur le métier, penser, chercher avec méthode. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un troisième doute, un troisième type de question. C'est ce que j'appelle le doute abyssal, le vertige. Et ça, évidemment, je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas, mais pourtant, ça va arriver. Une fois ou l'autre, dans votre vie, ça arrivera. Peut-être pas, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Le doute abyssal, c'est quoi? C'est une espèce de remise en cause existentielle. Vous perdez pied. Tout d'un coup, le vertige. Vous êtes marié depuis 35 ans, vos gosses sont mariés, ils ont fait des petits-enfants, et tout d'un coup, vous vous dites « Merde, j'ai raté ma vie ». Parce que vous venez de vous faire jeter de votre boîte, vous avez l'impression que vous avez toujours été à côté de la plaque toute votre vie, la preuve, on vous jette comme un chiffon usé. Avec votre femme, vous commencez à vous ennuyer, vos gosses ne vous voient plus, l'abîme. Tout d'un coup, vous doutez. Ou bien un prêtre qui a 25 ans de sacerdoce, on vient de le changer, il change de paroisse, il est fort mal accueilli dans sa nouvelle paroisse, il se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose. » Doute abyssal, vous voyez bien ? Enfin, hélas, oui, on voit bien. Donc ça, ce n'est pas du tout ce type de doute. Que nous, au contraire, au CIF, on va essayer de vous donner des armes pour que ce doute puisse passer, que vous puissiez passer l'épreuve. On peut avoir le vertige par rapport à la question de la foi, même par rapport à la question de Dieu, ou même par rapport à la question de l'existence. On peut être un petit péteux qui fait le malin dans les salons ou dans les discussions politiques. Moi, je vous conseille plutôt le milieu. C'est-à-dire, on va réfléchir avec méthode. Et on ne va pas faire les malins. Voilà. Chercher, interroger, c'est plutôt bien. C'est ne pas s'interroger qui pose un vrai problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai déjà fait, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans. J'aime beaucoup l'art. Enfin, je l'enseigne aussi à l'Institut catholique, notamment l'architecture. Et je fais régulièrement des visites, notamment en Turquie, où je connais Istanbul par cœur et la Cappadoce, pareil. Et là-bas, je suis guide. Et je travaille avec une agence de voyage, toujours la même, depuis maintenant 40 voyages à peu près. Et régulièrement, maintenant, ils me donnent des stagiaires, des jeunes gens, garçons ou filles. Il y a 15 ans, il n'y avait que des garçons. Maintenant, ça commence à être un peu mixte. Qui sont étudiants, et qui sont turcs, et qui veulent être guides. Or, dans les écoles de guides, on vous apprend comment faire. Que faut-il répondre quand un lavabo fuit dans une chambre d'hôtel, enfin ce genre de choses. Et puis, évidemment, il y a quand même pas mal de groupes qui vont en Turquie pour le patrimoine religieux. Les mosquées de Sinan, absolument exceptionnelles, l'art byzantin et la Cappadoce. Et c'est très souvent, quand j'organise un voyage en Cappadoce, qu'on m'en confie. Et une fois, j'étais avec un groupe de jeunes et j'avais 4 jeunes stagiaires qui étaient avec moi. Et le soir, à dîner, évidemment, ils restaient avec nous. Et ils sont musulmans, bien sûr, ils sont turcs. Et j'étais bombardé de questions. Mais des questions non seulement sur les fresques cappadociennes, non seulement sur le monachisme byzantin, non seulement sur la culture d'Orient, mais sur l'existence de Dieu, la gravité du péché, les raisons du mal, enfin, vous voyez, toutes ces questions-là. Et les 4 musulmans, je les voyais chuchoter avec leurs voisins, qui avaient le même âge. Et au bout d'un moment, j'ai compris le truc. Un musulman ne doit pas poser des questions à un imam. Parce que pour eux, j'ai fini par le comprendre, j'ai fini par discuter avec eux, pour eux, poser une question, c'est commencer à douter. Mais le doute du mec malin, vous voyez, qui fait le malin, qui fait le prétentieux. Et donc, ils n'osaient pas. C'était pour eux, ils me l'ont dit carrément, hein, le début du blasphème. Pour nous, c'est exactement le contraire. Ne pas se poser de questions, c'est le début du blasphème. Parce que Dieu nous a créés avec une intelligence, une sensibilité. Ce n'est pas pour qu'on lui dise « Oh, tu t'es trompé. L'intelligence est perverse. La sensibilité est perverse. » Vous voyez le truc ? Et donc, j'aurais expliqué ça à mes braves stagiaires. Et à chaque fois que j'en ai, à chaque fois, la chose revient. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper important de voir ça. Donc nous, tout de notre humaine condition doit être animé par la foi et éclairé par l'intelligence. Nous aussi, on est pour l'intelligence de la foi. Le CIF n'est pas le centre de l'intelligence de la foi, comme souvent les journalistes me disent « Père, vous êtes le directeur du centre de l'intelligence de la foi ». Je leur réponds à chaque fois « Non, j'espère que c'est plutôt l'Esprit-Saint ». Moi, je suis pour l'intelligence de la foi. Et au CIF, on l'est tous. Donc, on est là pour s'interroger, mais pas pour avoir des questions prétextes, ni pour démolir l'édifice. Les études n'empêchent pas les questions, au contraire. Parfois, peut-être, aurez-vous le sentiment d'être tellement ébranlé dans votre certitude que la foi va s'effondrer. Pas du tout. Rassurez-vous, ici, ce qui ébranle libère. Mais nous procédons avec un peu plus de méthode que les Dalton. Nous ne creusons pas les questions pour le plaisir, mais pour éviter de mauvaises constructions. Il faut donc des déplacements, il faut ouvrir des brèches et parfois défoncer des certitudes. Mais pour ouvrir l'espace, en fait, pour mieux comprendre, en vérité, pour mieux bâtir. Et donc, vous voyez, ce qui peut paraître au début comme quelque chose qui ébranle des certitudes, en fait, nous libère et nous permet de participer à l'édification. Et non de se protéger dans des forteresses de certitudes. Alors, il y a plusieurs dimensions de l'intelligence. J'en ai mis trois. La raison, le cœur et l'esprit. Comme on le voit sur ce schéma, les trois ne peuvent se recouvrir entièrement. Mais ils se compénètrent quand même largement les uns les autres. Ils se confirment, ils s'animent mutuellement. On ne peut pas réduire ce qui relève de l'émotion à un concept abstrait. Et pourtant, une part de ce qui nous émeut gagne beaucoup à être éclairé par l'explication. Et cet éclairage par la raison, du coup, va enrichir la qualité émotionnelle et la qualité du sensible. Une visite au musée du Louvre, et je vous en fais la démonstration en 10 minutes. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est d'autant plus sensible qu'on active l'intelligence pour ce sensible, pas pour l'annuler. Et l'un et l'autre vont s'éclairer. Et donc je mets raison, cœur, esprit, ce sont des catégories qui ont été mises en place par Jean Kelevitch, avec tout un tas d'autres. Et tout ça, vous voyez, forme une existence équilibrée. Alors qu'est-ce que la raison ? D'abord, la raison est animée par l'ensemble d'ailleurs de nos existences est animé par ce que nous appelons l'esprit, c'est-à-dire roi, le souffle. Et le souffle, ça vient éveiller les braises. Le souffle, ça vient à l'intérieur de nous-mêmes, plus intérieur à moi-même que moi-même. Le souffle, c'est de participer à ce qui est insaisissable, l'air que je respire. Le ciel en moi, si vous voulez. L'ensemble doit être animé par le souffle de l'esprit. L'intelligence, la seule raison rationnelle, est utile, mais ne suffit jamais. Nous ne pouvons absolument pas réduire nos existences, même quand on cherche à les comprendre, à la seule raison. Le cœur ne peut pas suffire non plus. Et c'est souvent un prétexte à abdiquer l'intelligence que de dire « Ah, mais ça, je le sens comme ça. » Il faut vraiment que les choses s'étayent mutuellement. Voici ce qui serait un excès de rationalisme. Voici ce qui serait un excès d'émotionnel. Et le carcéral d'un côté comme de l'autre. Et le schéma que je vous propose, c'est plutôt celui-là. La raison anime la pensée, mais la pensée déborde la raison. Ouh là là, c'est du Kant. Je vous explique en une minute. La raison, c'est l'outil rationnel, l'intelligence critique, si vous voulez. Mais il y a des choses qui sont pensables, qui débordent la raison. L'amour humain, la beauté du monde. Vous pouvez la penser. Cependant, ça déborde largement la raison rationnelle. Et on peut dire qu'il est parfaitement raisonnable d'aimer. Ce serait même déraisonnable de ne pas aimer. Or, si vous vous en tenez à la raison critique, vous ne pouvez pas aimer. C'est jamais raisonnable. Enfin, c'est jamais rationnel. La beauté, pareil. La beauté n'est jamais rationnelle. Pourtant, il est raisonnable d'être ému par la beauté. Vous m'avez compris là-dessus. Et donc, vous voyez, il y a une espèce, les petites flèches rouges, là, il y a une espèce d'aller-retour là-dedans. Et même, j'ai fait exprès que la pensée elle-même soit sur ce fond blanc. Parce qu'il y a tout le reste encore. La corporité, la compagnie, la fraternité, etc. Et donc, voilà, je vous laisse ce petit adage de Claude Bruère, un très bon philosophe contemporain qui est mort il y a quelque temps déjà. Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. Alors ça, c'est très bon, vous voyez, d'avoir ce genre d'adage qui vient régulièrement étayer notre pensée. Alors, quelques images pour illustrer ça et pour finir. Voici un artisan. Il a une intelligence du sensible. Il a même peut-être une intelligence de la main. Vous savez, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus dans les années 60 sur l'intelligence de la main. La main qui sait toucher une surface et qui n'a pas besoin de l'intelligence pour immédiatement comprendre de quoi il s'agit. L'artisan, le vrai artisan, celui qui a du métier, hein, de la techné, il va caresser le bois. Et il va savoir exactement dans quel sens le travailler. Une intelligence du sensible. Il y a une extraordinaire intelligence dans ce geste. Et il est très beau. Il y a de la complicité animale entre l'homme et le cheval. On pourrait dire qu'il y a une intelligence animale qui est mise en œuvre pour cet exercice de la beauté. Les ressentis nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, sur le monde. Quand on est saisi par un beau paysage, on est bien et on se ressaisit, ou au contraire, on se repose. Ça éveille l'esprit. La pitié est une forme d'intelligence, d'ouverture à autrui, de compassion active. La compassion active est un mode d'intelligence, de compréhension de l'incompréhensible. Donc voilà, vous voyez, ces images nous donnent à penser, en voici une dernière, l'amour humain, bien sûr, hein. Rien de rationnel, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait bien déraisonnable de ne pas aimer. Autrement dit, dans l'expérience chrétienne, les choses sont ainsi associées les unes aux autres, foi, émotion, fraternité, intelligence, joie, parole, recueillement, etc. Voilà ce que je voulais vous dire des rapports entre intelligence, raison et foi. Et donc, le CIF, c'est d'abord un lieu, des locaux. Nous sommes ici hébergés par la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. C'est un bureau, une bibliothèque, une assistante au premier étage de ce bâtiment, des salles de cours pour les groupes au sous-sol. C'est surtout un ensemble, cours et groupes, comme Aude vous l'a dit, un cours de 2 heures chaque semaine, une équipe de travail, groupe. Vous verrez, la fraternité commence à opérer petit à petit. À quoi s'ajoutent les journées Bible, un petit module de 5 cours d'histoire en janvier, une rencontre œcuménique ou interreligieuse tous les ans. Bref, chers amis, au taf.
Pas de pause. Alors, maintenant que vous êtes convaincu que le CI va être passionnant, même un peu difficile. Si c'est, même si c'est difficile, ça vaut la peine, mais ça ne le sera pas trop. Alors, d'abord, je me présente d'un mot. Moi, je suis Roselyne Dupont-Roch, je suis laïque, mariée, mère, grand-mère, ça m'occupe beaucoup. Et j'ai enseigné la Bible à l'Institut catholique de Paris pendant entre 28 ans, je crois. Ce qui fait que le cycle de formation des laïcs, dont Aude vous a parlé tout à l'heure, ce cycle du soir à l'Institut catholique de Paris, je ne l'ai pas quitté pendant plus de 30 ans. Maintenant, je suis retraitée depuis un bon nombre d'années. Et donc, je continue, parce qu'on ne peut pas s'arrêter, à enseigner la Bible de diverses façons, au CIF, et puis beaucoup dans des formations sur Internet. Voilà. Et donc, j'ai effectivement, ma vie est chevillée aussi à la Bible. Alors, c'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez compris que ça n'est pas déraisonnable d'entrer en théologie, je vais aussi vous parler un tout petit peu de l'importance de la lecture et du travail sur la Bible. Et dire tout de suite que ce n'est pas un à côté ou en parallèle avec le parcours théologique, mais c'est un recours permanent. La Bible est en fait, alors on peut donner des images, un arrière-plan fondateur, une source plutôt, une source qui diffuse à l'intérieur de tout ce qui a été dit, de tout ce qui va être dit, qui nourrit, qui informe. Pour moi, c'est le point de départ de toute théologie et la théologie va sans cesse y retourner. Et je commence en précisant deux expressions qu'on emploie de temps en temps, qu'on a employées, qu'on emploie encore. La première, c'est le Concile Vatican II qui a affirmé que la Bible était comme l'âme de la théologie. Alors comme, hein, méfiez-vous des comparaisons dont on fait vite des identifications. Mais là, ça revient à ce que Bernard a dit tout à l'heure. La Bible est même, et ce souffle, elle porte ce souffle, le souffle de Dieu créateur, qui va, au fond, inspirer sans arrêt la raison au travail. En même temps, l'âme, pour moi, c'est un peu évanescent. C'est un peu flou. Où est-ce qu'elle est, l'âme? Tandis que la Bible, elle est d'abord éminemment incarnée. Et ça, c'est dans la chair. Voilà. La Bible est incarnée. Elle n'est pas une œuvre du raisonnement. La Bible, ce n'est pas un ouvrage philosophique, ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un catéchisme. La Bible, elle utilise d'autres fonctions du langage. Les poèmes, les récits, les oracles, les proverbes, éventuellement les textes de loi ou même les fonctions romancées, les mythes, les légendes. Voilà, des fonctions du langage qui nous ramènent au fond de la contemplation des idées, parce que c'est toujours un peu le risque, malgré ce qu'a dit Bernard et les bémols, de la contemplation des idées dans l'histoire et dans la vie humaine. La Bible, elle nous plonge dans le terreau et même dans la boue de temps en temps, quand il pleut, ça fait de la boue qui colle, des difficultés, des contradictions, mais aussi des aspirations et des grandeurs de l'être humain et de tout un chacun. Ça, c'est la première expression qu'on trouve. L'autre expression, que je vais aussi un peu modifier, on dit que la Bible est parole de Dieu. À la fin de certaines lectures, dans les célébrations, on a pris l'habitude de dire « parole du Seigneur ». Et de fait, là, une parole vient d'être prononcée. Mais la Bible, c'est d'abord des écrits, c'est d'abord un livre. Nous ne sommes pas des gens du livre, mais nous nous référons à ces écrits qui sont dans un livre. Donc, dire que Dieu parle dans la Bible, c'est à la fois vrai, et en même temps, il faut immédiatement le corriger. Comment Dieu parle-t-il? Dieu n'écrit pas, Dieu n'a pas dicté, même aux prophètes. Au fond, il faut tout de suite, et j'essaierai de vous le montrer dans les sessions, affirmer que la Bible, ce sont d'abord des paroles d'hommes, mises par écrit, à un moment donné, longuement retravaillées, mais des paroles d'hommes qui sont, au fond, en quête de Dieu, à son écoute, qui vont à sa rencontre et qui rencontrent un Dieu qui les cherche. Alors, ces hommes, ils font résonner l'écho de ce Dieu à la rencontre de l'homme dans l'histoire et dans la vie humaine. Et c'est à travers des histoires et à travers l'histoire que la Bible va nous conduire à la théologie. Bien sûr, la Bible, c'est l'histoire d'un peuple, d'un petit peuple, un peuple qui, dans le passé, n'avait pas une grande importance, le peuple juif, et on pourrait toujours se dire, mais enfin, nous sommes des chrétiens, est-ce que c'est vraiment très important pour nous? Oui, sauf que l'histoire de ce peuple, c'est l'histoire de celui que les chrétiens confessent comme leur Seigneur, Jésus-Christ, qui est juif, et l'histoire d'Israël, c'est son histoire. À travers lui, c'est en partie la nôtre. Et puis, une histoire particulière a toujours des résonances universelles. On va vraiment s'y retrouver. Et là, je voudrais essayer de dire que la Bible nous fait découvrir au moins deux choses, nous mène dans deux grandes directions. La première, la Bible nous emmène à la découverte de celui qu'elle appelle le Dieu d'Israël, le Seigneur, le Dieu créateur et sauveur. Parce que ce tout petit peuple, noyé entre des grands empires et finalement tout le temps occupé, a quand même osé affirmer pendant plusieurs siècles qu'en relisant son histoire, il a toujours découvert que quelqu'un était là, avant lui, qui le précédait, qui l'attendait, qui toujours était à sa recherche et qui est venu le rencontrer. Quelqu'un qui s'est engagé avec lui dans une série d'alliances. Ce quelqu'un, il l'a appelé Dieu, en finalement concentrant sur ce titre toutes les aspirations à la divinité qui existaient dans l'histoire humaine. Et ce Dieu s'est engagé dans une présence indéfectible à côté de son peuple et à côté, en fait, de l'humanité. Pour moi, un résumé, au fond, de ce qui nous conduit à la Bible et de ce qui nous conduit vers ce Dieu, qui d'abord est le Dieu révélé à Israël, c'est l'histoire du songe de Jacob. Alors, dans 15 jours, je vous montrerai aussi une belle représentation du songe de Jacob. Jacob qui est parti chercher femme, qui s'endort à Bethel, la tête couchée sur une pierre, et qui, la nuit, rêve qu'une échelle rejoint le ciel et la terre, donc le ciel s'est ouvert, et des êtres spirituels, des anges, montent et descendent. Quand il se réveille le matin, je ne sais pas s'il avait bien dormi, mais un peu sonné, Jacob a cette parole incroyable. Oui, ce lieu est saint, c'est-à-dire il est à part, il est extraordinaire. Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. Et au fond, pour moi, c'est ça la découverte. Quand on se retourne sur la Bible, comme quand on se retourne ensuite et en même temps sur sa propre vie, on peut un jour se dire, oui, le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. Je n'avais pas vu et maintenant, je découvre. Je découvre. Alors, évidemment, découvrir ce Dieu que le judaïsme nous transmet, dont il nous transmet la proposition, la quête, ça devient tout de suite faire de la théologie. Essayer une parole sur Dieu. C'est ça la théologie. Hein. Essayer de dire quelque chose de Dieu. Essayer d'en savoir quelque chose, de connaître un peu mieux. Et sur ce point, la Bible qui est en permanence, cette recherche-là, donc elle est en permanence des formes non rationnelles de la théologie. La Bible nous met tout de suite en garde. Et ça, c'est important. Elle nous met en garde. Nous n'aurons jamais une connaissance parfaite, totale de Dieu. On ne met pas la main sur Dieu. La découverte de Dieu dans la Bible, et la découverte, c'est la révélation. Hein. Révélation, c'est soulever le voile un peu. La découverte, elle est lente, elle n'est même pas progressive, elle est surtout multiple, variée. Autant de récits à travers les siècles, autant d'histoires qui vont soulever un coin du voile. Alors Dieu va apparaître, c'est comme un kaléidoscope, même si ça ne s'emploie plus aujourd'hui. Le Dieu vengeur, le Dieu de la tribu, le Dieu guerrier, pourquoi pas, pour nous défendre, il faut bien. Le Dieu qui se bat contre les forces de la nature et les maîtrise, mais aussi le Dieu tout proche de l'homme. Le Dieu paternel, le Dieu maternel dont la matrice s'émeut, si ce n'est pas une image maternelle, ça, voilà. Le Dieu amoureux, le Dieu qui inscrit son peuple et les hommes sur la paume de ses mains. Toute une série, évidemment ce sont des images qui viennent de la vie humaine, on n'en a pas d'autres, on essaye. Voilà. La Bible essaye sans arrêt, et même dans un récit célèbre, Moïse qui va voir un buisson qui ne se consume pas dans le désert, faire le tour et se rendre compte que voilà, c'est indicible. Même lorsque là, Dieu va dire son nom ou proposer son nom à Moïse, ça reste tellement difficile et impénétrable qu'on ne peut pas le traduire. Chaque fois qu'on le traduit, quelqu'un propose une autre traduction. En gros, aujourd'hui, on traduit « je serai celui qui, non pas sera, mais que je serai ». Alors, ça tourne en rond et en même temps, ça s'ouvre sur l'avenir. je serai celui que vous allez découvrir dans votre histoire, dans votre vie, chacun en entrant aussi dans cette collection incroyable d'expériences humaines que nous offre la Bible, religieuse, existentielle, mais qui vous appelle, vous aussi, à faire votre expérience et à tenter de dire, en sachant bien sûr que vous n'avez pas la totalité. Saint Augustin le disait très bien, si tu as compris, alors ce n'est pas Dieu. Quand vous aurez tout compris, vous êtes sûr que vous êtes planté. Voilà. Mais c'est aussi l'importance des échanges, d'être pas seul, parce que c'est cette diversité d'expériences de Dieu qui construit, qui nous fait avancer sur le chemin de la connaissance de Dieu, et c'est ça aussi que le CIF vous propose. Et puis, deuxième découverte que la Bible nous fait faire, le trait majeur du Dieu d'Israël, c'est d'être un Dieu qui parle. Voilà, je disais tout à l'heure, Dieu parle comment ? Et bien, dans la Bible, on a sans arrêt un Dieu qui parle comment ? Il parle par la beauté de la création, il parle dans l'histoire, par les prophètes, par les oracles, par les poètes aussi, et il parle au cœur de l'homme. Il parle dans la loi, il parle dans la sagesse. Et finalement, là où la Bible nous conduit au fond aux portes du christianisme et de notre foi chrétienne, Dieu parle aux êtres humains en s'approchant d'eux à tel point qu'il se fait parole. Voilà. Dieu se fait parole et notre foi, c'est que la parole s'est fait chair. Il nous parle au creux de notre humanité dans cet homme de chair, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la deuxième partie, mais c'est vraiment dans la continuité, on ne peut pas les séparer, de la Bible pour les chrétiens, ce Nouveau Testament ou ce Second Testament, comme on dit parfois, vient révéler à nouveau quoi ? Eh bien, à nouveau, une diversité, c'est-à-dire, je raconte la même histoire, une diversité d'expériences inouïes que les disciples de Jésus vont faire en l'accompagnant dans sa vie, dans sa mort atroce, et dans cet événement sans précédent, qu'ils arrivent mal à dire, parce qu'il n'y a pas d'autre événement de ce genre dans l'histoire, celui qu'ils avaient vu mourir, ils l'ont rencontré vivant. Qui est-il ? Alors, là encore, n'attendez pas de tout savoir du deuxième trimestre. Bernard vous parlera de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. À la fin, vous ne saurez pas tout, parce que la Bible, la première, le Nouveau Testament, le premier, nous donne une variété d'éclairages. 4 évangiles, 4 expériences différentes, les actes des apôtres, des lettres diverses, l'Apocalypse. Ça dialogue, mais ça ne fait pas une totalité. Il n'y a pas une profession de foi. Il y a des récits qui s'interrogent et d'ailleurs, qui tentent de répondre à la question centrale que Jésus a posée lui-même. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Au fond, le Nouveau Testament consiste à vous donner la parole, à vous de dire... Et là aussi, dans l'échange, dans le dialogue, chacun a sa mesure. Qui est-il celui-là ? Vous, qui dites-vous que je suis ? Les premiers chrétiens, on le voit bien dans le Nouveau Testament, n'avaient pas de credo tout fait. Ils ont dû construire leur foi d'abord en la vivant, en célébrant ensemble le ressuscité, dans le partage quotidien animé de l'amour du frère, construit dans le dialogue. Et tout au long de l'histoire, la Christologie, les paroles sur le Christ, ça va être cet immense effort pour toujours mieux dire qui il est. Et les premiers conciles, les 7 grands premiers conciles dits œcuméniques, qui ont fixé, au fond, ce qu'on a appelé ensuite des dogmes, mais je me méfie de ce mot comme la peste parce qu'il n'est jamais compris. Les dogmes, c'est la réponse, l'opinion qu'on en a et qu'on a pu donner à cette époque-là située. Qui fait Kern, Bernard a parlé tout à l'heure de la marche dans la montagne, il faut des repères. Il y a des marches en montagne, et j'en fais beaucoup. Quand vous voyez un Kern, vous savez, ces pierres empilées, ben vous êtes très soulagé. Parce que jusque-là, vous étiez un peu paumé, vous disiez, où est-ce que je vais, par où je vais passer ? Est-ce que je ne vais pas être obligé de faire un grand demi-tour ? Ah, il y a un Kern, ça va. Voilà, ça fait balise. Ça n'empêche qu'il faut continuer, et qu'il faut à nouveau essayer de dire pour aujourd'hui, et dans les termes d'aujourd'hui, qui est-il celui-là ? Et c'est, au fond, vous mettre en route pour faire de la théologie. Donc, la Bible, au fond, elle n'est pas une réponse à vos questions. Elle est ce livre qui vient sans arrêt vous interroger. Et vous, qui dites-vous que je suis ? et vous lancer sur les chemins de la théologie. Vous y reviendrez aussi sans arrêt, parce qu'on revient sans arrêt à ce terreau premier, à cette vie du Nazaréen, qui est au fond la vie qui révèle Dieu, à toutes ces histoires qui nous remettent chaque fois en quête. Voilà, je m'arrête là. J'espère vous avoir convaincu. Et en tout cas, après vos premiers pas au CIF, je vous donne rendez-vous le samedi 16 octobre, donc ça fait dans 15 jours, pour que nous ouvrions ensemble l'Ancien ou le Premier Testament avant de passer ensuite en janvier au Nouveau.
Petite pause. Servez-vous, prenez un petit café et on reprend dans 10 minutes.